tous.
Je sais pas.
Tu sais plus. J'allais dire que tu faisais mieux que Seb, mais en fait non, pas du tout.
Non, j'ai paniqué.
En cours de route, t'as paniqué.
Je suis mis dans.
Bah alors,
ces chaussures étaient beaucoup trop grandes pour moi. D'autant plus qu'il met maintenant un gros bandage dedans.
Ouais, ne remplace pas Sébastien Télé qui veut. Hein. T'as essayé?
J'ai essayé, ouais. J'ai pas pu. Surtout qu'on n'est pas le soir, on est l'après-midi.
On est l'après-midi et c'est pas Sébastien Télé qui a fait l'intro, ça s'est un petit peu ressenti.
Ça s'est un petit peu ressenti, Sébastien Télé, on va tout de suite en parler, qui ne sera pas là ce soir. Fin d'une immense série de sa part.
Fallait pas dire.
Lui qui n'avait pas raté un seul match au commentaire depuis le 19 novembre 2021. Une série de 217 matchs commentés d'affilée. On le salue s'il nous écoute, ce qui doit être le cas vu qu'il vient de nous écrire.
Il est en direct de son canapé. Je l'avais préparé, celle-là, j'avais qu'elle te plairait. Je pensais te déstabiliser à ce moment-là, mais en fait, tu t'es déstabilisé tout seul, donc j'ai même pas eu besoin.
C'est ça, moi, je suis en autonomie déstabilisatoire. On est le 5 octobre, on est à Bienne, on est content d'être là, il est 14h, 13h46 pour être précis, c'est un horaire qui est assez inhabituel et franchement moi j'aime bien, quitte à commenter le dimanche, autant pas rentrer trop tard à la maison.
Ouais, alors c'est un peu le milieu de la nuit quand même, il faut bien le dire, mais c'est vrai qu'il y a même une possibilité pour les gens aussi débiles que moi de se dire mais tiens, si le match finit pas trop tard, qu'on peut sortir assez vite de la patinoire et qu'il n'y a pas trop de monde sur la route, c'est possible de voir la fin du match à la Praille.
Ah oui, on en est là,
il est à 16h30. Ah oui. Prévu aux alentours de 18-20, 18-30, mais il faudra vraiment que ça aille vite.
Écoute, au pire, tu pars à la deuxième pause. Et
non, je vais quand même pas faire ça. Je vais pas te laisser tout seul. J'ai vu que ça avait l'air déstabilisateur, comme tu l'as dit.
Ah,
je ne t'abandonnerai pas. Je resterai avec toi, promis.
Jonas Servette qui affronte bien ce soir. On parle depuis le début de la saison de deux wagons. Un premier wagon avec les équipes qui devraient finir, en tout cas dans la lutte pour les play-offs. Un deuxième wagon, et Bienne est un peu dans les meilleurs de deuxième wagon. Un peu en embuscade, Bienne qui a remporté 5 de ses 7 derniers matchs. Et de l'autre côté, on a Genève Servette qui, sur les deux derniers matchs, nous a pas franchement rassurés.
Non, vraiment pas. Genève Servette qui a gagné à Langnau mardi passé. Alors si on regarde uniquement le résultat, on se dit bon, ça va, on a gagné à Langnau. On sait que c'est pas toujours facile. Dans le contenu, c'était quand même vraiment, vraiment pas ça. Genève Servette a eu beaucoup de mal. Langnau était nettement meilleur et Genève Servette a pour une fois mieux saisi ses opportunités qu'il le fait d'habitude. Et puis le match de vendredi soir, est-ce qu'on a très envie d'en parler? C'était pas un non-match, parce que le non-match, je pense que la définition du non-match, on l'a eu il y a un mois, mais c'était pas loin d'être ça. C'était vraiment, j'ai trouvé depuis ma position en parterre nord, pas proposé grand-chose. Je suis pas sûr depuis ta position en tribune de presse qu'il y ait un avis bien différent du mien.
Non, effectivement, c'était pas bon. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand chose à sauver non plus de ce match, si c'était le premier tiers-temps qui était relativement équilibré. Mais malheureusement, on a vu ce premier but encaissé par Stéphane Charlin qui est symptomatique malheureusement de début de saison. Et puis Jean Servette qui est tombé dans ses travers, qui n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, qui s'est découvert derrière et qui a laissé échapper ce match. Il va falloir montrer autre chose ce soir. Et peut-être la bonne nouvelle, c'est que le coaching staff, on va en parler avec l'alignement tout à l'heure, a réagi et a tenté des nouvelles choses.
Ouais, et c'est vrai que tu fais bien de parler du coaching staff, parce qu'encore hier, et assez régulièrement, les gens, forcément, on parle de hockey, puis les gens disent « Ah, mais bon, avec Yorick Trey, de toute façon, blablabla, blablabla. » Alors, pour moi, il y a plusieurs choses à remettre. Déjà, Yorick Trey n'est pas tout seul. Hein, ouais. Il a trois assistants avec lui. Donc, en principe, les décisions se prennent quand même, j'imagine, en collégialité, même si c'est peut-être lui qui a le dernier mot en tant qu'entraîneur principal.
Il y a un associé de coach et deux assistants. Donc, si on prend les termes.
C'est pas Yorick Trey uniquement. Et moi, j'ai envie de dire, je crois que je préfère voir un coach. Alors, je dis pas que j'ai envie de voir des coachs qui laissent d'ailleurs pile au moment où on voit sa photo sur l'écran géant qu'on parle de lui. Je dis pas qu'un entraîneur doit être apathique pendant tout un match, mais je crois que je préfère voir un entraîneur qui, pendant le match, est plus dans l'analyse et entre deux matchs, dit ok, on va ajuster certaines choses, on va changer, on va oser casser. On en parlera tout à l'heure, en duo qui jusqu'à maintenant semblait bien fonctionner. On se dit ouais, mais on va quand même essayer de changer, on tente des choses. Et c'est vrai que des fois, pendant un match, il y en a qui s'attendent à avoir un entraîneur beuglé derrière son banc tout le match. Je suis pas sûr que ça soit toujours la bonne solution. En tout cas, c'est pas la façon de faire de Yorick Trey. Donc il va falloir s'y habituer parce que tant qu'il sera là, on n'aura pas un entraîneur hyper loquace derrière son banc. pour l'instant, on va dire son bilan comptable, il est pas horrible, donc on va pas lui jeter la pierre. Maintenant, je pense que tu es un peu comme moi, tu en attends plus dans le jeu, en tout cas au vu de l'effectif aligné.
Ouais, alors moi, il y a deux points que j'aimerais relever. Le premier, c'est que l'apathie derrière le banc, c'est aussi ce qu'on reprochait à Yann Cadieux quand il a repris l'équipe au début. Ouais. Dans ces deux, trois premiers matchs où il a fallu mettre des choses en place, où des journalistes étaient déjà en train de cracher dessus en disant que la réaction n'avait pas eu lieu, on a vu la suite. Donc un coach qui n'est pas forcément hyper vocal, qui prend pas forcément de temps mort, c'est pas forcément mauvais coach. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'on en attend plus. Et moi, c'est mon point faible depuis le début de la saison, c'est le jeu de transition. Ouais. Je trouve qu'avec les défenseurs qu'on a qui sont capables de monter le puck, il y a un Simon Lecoutre, un Vissari Harvey, un Yann Routa, il y a du talent, on devrait pouvoir avoir autre chose que passer la ligne rouge et balancer en fond de zone. Le power play aussi, qui est toujours pas super bon, même si on m'a fait remarquer qu'au niveau de la dangerosité par rapport au temps passé sur la glace, donc les buts escomptés par 60 minutes jouées à 54, Jeff Savat est la quatrième équipe la plus dangereuse. Malheureusement, c'est l'équipe la plus dangereuse contre elle-même aussi.
Voilà. Et puis, tu parles de buts escomptés et de qualité des lignes. Il y a un article du Blic qui est paru jeudi ou vendredi, je ne sais plus exactement, oui, qui listait un peu les lignes les plus dangereuses du pays, en termes de statistiques toujours. Hein. La première ligne, c'est notre ligne de Forlandais. Et la deuxième ligne, c'est notre quatrième ligne quand elle est au complet, à savoir Ishier, Miranda et Verboon. Donc ça veut quand même dire que les lignes fonctionnent. Maintenant, ce qui leur manque, c'est la concrétisation. Oui. Mais c'est vrai que dans cette première ligne, dans l'ensemble, elle est quand même redoutable. On le voit, elle marque quand même assez régulièrement. Le problème, c'est que si elle ne marque pas, il n'y a pas grand monde derrière qui peut prendre sa place.
C'est ça. Puis si tu as une première ligne qui marche, une quatrième ligne qui marche, et puis qu'au milieu, tu as quand même des joueurs comme Noah Roth, Tim Boson, Vincent Praplan, Marc-Antoine Pouliot, qui sont censés faire le boulot, on devrait pouvoir avoir un alignement correct. Pour le moment, la mayonnaise ne prend pas sur ces lignes 2 à 3. Mais je propose qu'on fasse la composition des équipes.
Ouais, exactement. On va pouvoir illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire.
Ce qui a été tenté. Je vais m'occuper de la composition des joueurs locaux. Tu vas t'occuper de celle de Jeunesse Servette. Dans les buts, une vieille connaissance, Harry Sateri, qui sera le premier gardien. Il sera remplacé au besoin par Louis Janet. En défense, on retrouve la pépite d'Adel Bodum, Miros Reed en première paire avec Linus Ullström, Yannick Stampfli avec Yannick Bourren, une paire de Yannick en deuxième paire, le Biennoise. Robin Grossman sera aligné avec Niklas Blessing. Une bénédiction pour le défenseur Robin Grossman. Et Rodwin Dionisio sera le septième défenseur. En attaque, le top scorer de cette formation biennoise, Elias Andersson, sera aligné avec Pet Shaika, une vieille connaissance aussi du côté des Vernets. Et Marcus Silvegaard, Gaëtan Haas de retour avec Tony Rajala et Fabio Fer. Nicolas Müller sera le troisième centre avec Jere Salinen et Johnny Knebuller. En quatrième ligne d'attaque, on retrouve Jérim Berchi, Yannick Stavratnik et un homme qui ne s'appelle pas Mylène, qui n'est pas fermier ni une barre de céréales. On ne sait pas s'il est libertine, mais c'est Mjolan Katin. Et Lucas Christen sera le 13e attaquant de cette formation qui compte comme blessé Léo Braillard, comme étranger surnuméraire, le défenseur Oscar Ilaksonen. Et du côté de la relève, Florian Cheux, Jonah Neuschwander, qui avait été le plus jeune joueur aligné en tout cas la saison dernière, et Jamie Villard.
Alors que côté Jeunesse Servette, on fonctionne avec l'alternance des gardiens, toujours Stéphane Charlin qui a joué vendredi. Et c'est ce soir Robert Maillère qui prendra place dans les buts. Robert Maillère, j'aurais bien un moment ou l'autre de rappeler son histoire d'amour avec le HC Vienne il y a quelques années. Maillère qui sera donc titularisé ce soir en défense. On va garder les mêmes paires, si je ne dis pas de bêtises, que vendredi, avec Vilissari Järvi et toujours associé à Tim Berni sur le premier bloc. Jean-Carlo Chanton qui jouera avec Dave Souter en l'absence de Yann Routa qui est blessé. Simon Lecoutre et Roger Carrère sont la troisième paire de défense, et Eric Schneller qui fera office de septième défenseur. En attaque, alors on va commencer par la seule ligne qui ne change pas, c'est celle des Finlandais, Sakari Manninen toujours accompagné de Markus Granlund et de Jesse Puljujärvi. En deuxième ligne, on va retrouver Jimmy Vesey, ça on en a l'habitude. Par contre, il sera associé ce soir à Tyler Beck pour la deuxième fois consécutive, et à Tim Boson qui reprend place dans la deuxième ligne d'attaque et qui vient donc remplacer Josh Joris, qui lui redescend en troisième ligne, au centre de la troisième ligne, avec à côté de lui Noah Roth et Marc-Antoine Pouliot. Une ligne de joueurs pas hyper convaincants à part Joris, mais pour l'instant Pouliot et Roth sont encore, on va dire, en phase d'adaptation, si on peut appeler ça comme ça, pour être gentil avec eux. Et enfin quatrième ligne avec Matthew Verboon, Marco Miranda et Simas Ignatavicius. Vous avez peut-être remarqué l'absence d'un homme habituellement présent dans les trois premiers blocs d'attaque, c'est Vincent Praplan. Il n'est pas absent, il est juste relégué au rang de 13e attaquant. Vincent Praplan qui connaît un début de saison un peu compliqué, c'est pas le seul, mais c'est lui qui en fait un petit peu les frais ce soir. Vincent Praplan dont on surveillera le temps de jeu évidemment. Pas surpris quand même qu'il fasse quelques chiffres dans des lignes un petit peu plus élevées que son rôle de 13e attaquant.
Ouais, effectivement, du côté des blessés, tu l'as dit, Yann Routa qui est toujours absent, il est annoncé jour le jour. Luke a essayé de passer des examens, j'ai pris des nouvelles, je n'en ai pas encore reçu. Et on a toujours Tanner Richard qui se remet d'une commotion, Jason Nixon qui n'est pas suisse. Ouais. Et du côté de Bienne, alors, l'animation d'avant-match est assez rigolote. On a déjà eu un bateau viking avec un étendard du Genève Servette se prendre des haches dessus. Et là, on a la plantation des joueurs qui sont tous dessinés par des jeunes fans de Bienne. C'est assez chouette.
C'est assez cool, ouais, effectivement. Il y a souvent des idées plus ou moins bonnes sur les vidéotrons de différentes patinoires en Suisse. Mais là, d'avoir des dessins d'enfants, enfin, j'espère que c'est des enfants. Hein. Surtout celui-là.
Je suis pas sûr de faire
mieux. Non, c'est vrai. Donc, des dessins d'enfants ou de gens qui ont le même talent de dessinateur que moi. Mais j'aime beaucoup l'idée, ouais. Effectivement, c'est très sympa. L'entrée des joueurs biennois en ce moment dans une patinoire qui est relativement bien remplie pour un dimanche. C'est un horaire quand même inhabituel pour tout le monde. Hein. C'est la première saison qu'il y a des matchs le dimanche à 14h. Donc il faut s'habituer à ces nouveaux horaires. On sait que d'habitude le dimanche c'est 15h45, en playoff c'est 20h. Là 14h c'est un horaire un peu hybride, mais qui finalement permet, ben, tu l'as dit, d'avoir une deuxième partie de journée où tu peux faire quelque chose. Ça plombe pas toute la journée, notamment pour ceux qui parcourent quelques kilomètres sur la route comme nous, et puis comme le parkage je le vois qui est rempli de une centaine de personnes à peu près, une petite centaine de personnes. Ouais. Et voilà, bah, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, on peut imaginer être de retour à Genève pour entre 18h30 et 19h, c'est-à-dire que même pour des enfants, par exemple, c'est un horaire qui est plutôt idéal. Donc pourquoi pas. Oui. Ça fait bizarre, mais je suis assez. J'aime bien le concept de ces matchs à 14h.
Je pense que c'est surtout pour les familles, en fait, parce que c'est clair que si tu as des petits-enfants, tu vas avoir un match en semaine, tu reviens pas à la maison avant 9h30, 23h. Là, tu peux les emmener à la patinoire, manger ton hot dog avant le match, c'est sympa, on rentre le soir pas trop tard. Mais voilà pour la partie horaire. Du côté de Jen, on peut quand même parler un peu des arrivées de cet été. Avec notamment Marcus Sivegaard, 9 points en 10 matchs pour l'attaquant suédois. Du côté des deux défenseurs qui ont été rapatriés tout court, Linus Ullström et Oskar Laaksonen, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ullström qui est à 3 assists en 7 matchs, Laaksonen 1 assist en 7 matchs. Difficile de faire oublier un Yakovenko et un Victor Löw.
Ouais, effectivement, c'est quand même surtout un Yakovenko qui était là depuis quelques saisons, qui est à Berne maintenant. Il a pas été très loin, lui, pour trouver une nouvelle adresse en Suisse.
Mais non, effectivement, c'est 20
minutes. Effectivement, c'est vraiment la porte à côté. Tu connais bien le trajet, il me semble. Oui. Voilà, Bienne qui est quand même annoncé comme plutôt faisant partie du 2 voire du 3e tiers du classement, hein, en tout cas selon les pronostics d'avant-saison. C'est vrai que quand on regarde l'alignement, si on prend uniquement les talents et les forces en présence, il ne devrait pas y avoir photo entre les deux équipes ce soir. Si on prend uniquement ça, après on sait qu'il y a les dynamiques, il y a un certain nombre de choses, de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais on a quand même normalement sous les yeux un prétendant au top 6, on va dire, et puis quelqu'un qui va plutôt vouloir aller accrocher les play-in dans le meilleur des cas. Je pense que j'ai l'impression qu'à Bienne, on est assez lucide sur le fait que c'est pas cette saison qu'on devrait se retrouver en finale comme c'était le cas il y a 3 ans pour ceux qui s'en rappellent.
Oui, effectivement, avec un cadre un peu vieillissant, hein, Gaëtan Haas qui revient d'une longue et difficile blessure, Tony Rayala qui est toujours un excellent joueur, hein, mais qui commence à sentir peut-être le poids des années. Mais il y a quand même quelques joueurs qui peuvent nous faire peur. Moi, je me réjouis de voir un Rodwin Dionisio, par exemple, qui devait jouer en Amérique du Nord et qui a craché sur un coéquipier, ce qui l'a vu d'être envoyé à Bienne. Hommage au passage apprécié moi, à mon animal préféré, le lama. Mais c'est quand même difficile de passer d'Anaheim à Bienne.
Ouais, et puis bon, c'est surtout difficile de dire que potentiellement ta carrière en NHL est foutue parce que t'as craché sur un coéquipier.
C'est con.
Qui est quand même, en tout cas, pour moi, le pire geste que tu peux faire vis-à-vis de quelqu'un. C'est vraiment insulter quelqu'un, lui faire un doigt d'honneur, même lui mettre une droite. Je trouve que c'est moins irrespectueux que de cracher sur quelqu'un. Et encore plus quand c'est un coéquipier, alors que là, on célèbre Tony Rayala. Alors, j'ai pas suivi à quelle occasion c'était. Mais Tony Rayala qui est une légende ici du côté de Bienne, tu l'as dit. Comme nous tous, il vieillit. Je fais un peu le parallèle avec Pesonen qu'on a vu mardi à Langlois. Oui. C'est ce même genre de joueur qui on sait qu'ils sont sur la fin de carrière. Par contre, ils sont quand même toujours là. À tout moment, il peut déclencher son tir qui est sorti de nulle part. Mais la banderole est en finnois, donc je ne la comprends pas forcément. Mais je pense que c'est 500 matchs. C'est merci, Kitos, c'est merci. Ouais. Donc je pense que c'est 500 matchs avec le maillot biennois, c'est possible?
J'imagine, je vais te dire ça tout de suite. Mais c'est tout à fait possible, lui qui est arrivé en 2016-2017 et qui n'a en fait que 34 ans.
Ah ouais,
je le voyais au même âge que Pessonnet.
Moi aussi, je voyais un peu plus vieux. Mais c'est quand même assez rare, des joueurs étrangers qui peuvent se targuer d'avoir joué 500 matchs dans la même équipe en Suisse, si c'est bien ça.
Ça doit être ça, parce qu'il a 437 matchs de saison régulière, selon sa fiche Elite Prospect.
Ouais, est-ce que c'est 500 points est-ce qu'on a fêté ses 500 matchs ou ses 500 points?
Non, c'est bien, c'est 500 matchs. 437 matchs de saison régulière et 63 matchs de play-off pour la bagatelle de 47 points quand même pour Sonny Rayala. Lui qui est à 6 points en 10 matchs sur ce début de saison.
Ouais, mais c'est excessivement rare, il me semble, pour un... Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs étrangers en Suisse qui peuvent prétendre avoir joué 500 matchs avec le même club.
Non, effectivement, lui qui pourra peut-être demander la nationalisation, la naturalisation l'année prochaine, ne pas l'obtenir, signer à Genève et devenir Suisse le mois qui suit.
Voilà, d'ici septembre. Mais voilà, on fait évidemment le parallèle avec Jason Eriksen, dont on nous.
Je pensais plutôt à Marc-Antoine Pouliot.
À Marc-Antoine Pouliot, mais c'est vrai qu'on est. C'est spécialiste d'aller récupérer, enfin spécialiste. Marc-Antoine Pouliot, c'est un joueur qui, en tant qu'étranger, il serait plus à Genève depuis 2-3 ans, j'imagine. Mais en tant que joueur suisse, même si cette saison c'est encore un peu compliqué, on sait aussi que c'est un joueur qui peut toujours faire la différence. Il est d'ailleurs sur la glace pour le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques instants. Marc-Antoine Pouliot et Josh Joris qui perd ce premier engagement, premier puck récupéré par les Biennois.
Bah, les Biennois qui vont balancer ce puck en fond de glace, ça va arriver sur Robert Mayer qui va pouvoir toucher ce puck. On est en train de lutter dans l'arrondi sur la gauche, début de jeune voix. Récupéré par Bernie qui peut jouer sur Sari Harvey à la relance. Sari Harvey qui va s'avancer, qui va pouvoir trouver devant lui un de ses coéquipiers. C'est Josh Joris qui va tenter d'apporter l'attaque, mais le puck est récupéré par les Biennois. Bon travail de Marc-Antoine Pouliot qui peut trouver Joris. On va revenir sur Sari Harvey à la bleue. Le tir est contré. Attention Biennois qui vont partir à 3 contre 2 avec Rayala qui ne parviendra pas à contrer cette rondelle. Ça va arriver sur la palette de Robert Mayer qui habilement va pouvoir pousser pour son défenseur Tim Bernie. Bernie dans la cage. C'est pour Sari Harvey. Sari Harvey qui va gentiment patienter qu'on change de ligne. 19 minutes 20 encore dans ce premier tiers-temps. C'est toujours 0 à 0.
Ouais, et les jeunes voient qu'ils vont pouvoir repartir depuis l'arrière avec un puck sur la palette de Sari Harvey. Attention à Sari Harvey qui perd le puck face à Rayala. Justement, Rayala une fois, deux fois, l'arrêt de Robert Mayer. Mais quelle erreur de Sari Harvey. On n'a pas eu le temps de parler en avant-match. Pourtant, il y aurait eu des choses à dire. Et je ne suis pas sûr qu'il améliore son cas avec cette erreur de relance. Il me semble bien que c'était lui.
C'était bien lui.
Rayala qui n'en a pas profité. Mais première grosse alerte là sur une erreur défensive. Je le vois. Tim Beson en entrée de zone. Beson qui peut jouer avec Vizi. C'est bien joué. Vizi qui cherche à remettre à Tim Beson derrière le but. Beson qui va réussir à trouver Tyler Beck. Beck qui revient à la ligne bleue. Un tir de prix de la bleue. Oh, le filet qui a bougé, mais c'est le gardien biennois qui l'a fait bouger. Un tir contré, un tir de Tim Beson. Mais alors là, il y a une première opportunité pour Genève Servette. Mais alors, quelle erreur de Sari Harvey. En plus, c'est forcément en face à Tony Rayala qui a bien failli en profiter. C'est Sari Harvey qui, pour l'instant, peine à confirmer les attentes, en tout cas, que j'avais. Enfin, pour moi, je trouve qu'il est bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui.
Ouais, alors moi, je trouvais des excuses en début de saison, on pensait que c'était un peu le système qui ne mettait pas en valeur, mais ce genre d'erreur là, il n'y a pas tellement d'excuses pour lui. Heureusement que Robert Mayer veillait au grain, alors que le jeu a repris avec un engagement sur la gauche de l'attaque genevoise, un puck qui est derrière la cage. Churier, c'est Pouliot-Harvey qui se tentait de se jouer de Robbie Grossman. Grossman qui fait parler son expérience, mais les Genevois qui peuvent récupérer ce puck. Ça revient derrière la cage pour Pouliot-Harvey qui est toujours bloqué contre la bande par Grossman et les Biennois qui vont partir. Une longue relance qui a été interceptée habilement par Roger Carrère. Le puck qui est sur Manninen qui va revenir dans ses bases arrière avec Carrère. La longue relance qui sera touchée par Pouliot-Harvey. Pas de dégagement interdit. Pouliot-Harvey qui va aller lutter face à Blessing derrière la cage. Ça permet à Manninen de récupérer. Bonne présence des Genevois qui peut revenir à la bleue sur Chanton le long de la bande. Est-ce que ce sera récupéré? Oui, par des Souter qui va se porter en attaque. Souter qui sera bien mis au sol. Et les Genevois qui vont piocher. On est dans l'arrondi sur la gauche des buts. Défendu par Harry Sateri. Le puck qui est disputé, qui va ressortir sur la palette de Granlund qui peut trouver Manninen. Manninen qui ne parviendra pas à trouver un angle de tir. Oh, c'est bien joué! Le puck, ouais, Pouliot-Harvey qui attendait de remettre sur Granlund. Mais les Biennois qui vont pouvoir se dégager. Ça va revenir jusqu'à Manninen dans la zone de 17 minutes 45 encore à jouer. C'est toujours 0 à 0.
Et Manninen qui peut jouer sur la gauche pour Chanton qui est resté en fin de shift. La Chanton qui pousse le puck à destination d'Inatavicius qui travaille bien face au défenseur biennois pour récupérer le puck. Inatavicius qui y parvient. Il joue avec Marco Miranda, les deux hommes qui s'associent, mais le puck est finalement dégagé par la défense biennoise. Ça va revenir avec Chanton, la relance de Chanton pour Verboon. Inatavicius qui va éviter le dégagement interdit. Les je le vois bien présent dans l'offensive avec Ignatan Vissus. Un tir de la ligne bleue là, de Tim Berni qui passe à côté. Et les Biennois qui vont tenter de repartir avec un puck qui sera envoyé. Non, pas de dégagement interdit parce que l'attaquant biennois a fait l'effort. Attention à Fabio Offert, un tir à l'arrêt de Robert Maillet repoussé sur la droite de ses buts. Un puck qui revient à la ligne bleue pour les Biennois. En possession du puck dans la zone. Attention, il y a un petit peu d'espace là pour un Biennois qui fait le tour de la cage. Le puck qui va revenir. On a le temps de tirer, mais Ignatan Vissus qui se met sur la trajectoire du tir. C'est bien joué. Attention à cette rondelle là qui reste en possession biennoise, des Biennois qui tentent de s'installer là, mais Jonas Servette qui se dégage. Le puck est rendu aux Biennois. On va changer de ligne pour tout le monde et c'est bien, il va pouvoir repartir sur la droite
avec un long puck qui va lancer vers la cage. Robert Maillard qui peut l'intercepter, mais à Roland Genevois sous la pression de Gaëtan Haas, mais Genevois qui s'en sorte même si là on a fait une mauvaise passe et ça va permettre aux Biennois de jouer. Mais un nouveau puck bloqué par la défense genevoise. Pouliarvi qui peut envoyer Granlund, Charbon Granlund, le tir, c'est passé juste à côté de la cage de Sateri, mais très bonne présence des Finlandais avec un puck à la bleue. Sarjärvi qui va tirer dans la mêlée, l'arrêt de Sateri et un très bon shift d'Ignatan Vissus avant à relever, lui qui allait gratter un puck derrière la cage, c'est ensuite couché devant un tir et là c'est la ligne des Finlandais de Neuf Servette qui est allé mettre le feu devant la cage de Sateri. Ça n'a pas suffi pour le moment, mais les intentions sont là.
Ouais, Ignatan Vissus, je trouve vraiment qu'il progresse de match en match, hein. Les premiers matchs du championnat, je le trouve encore un peu léger, encore un peu timide, mais ce qui peut se comprendre. Mais par contre là, depuis quelques matchs, pour moi il a rien envié, enfin il a largement sa place dans l'alignement, il a rien volé et il se défend plutôt bien, le joueur de Genève Servette, avec un tir de Beson, un nouvel arrêt d'Harry Sateri qui est probablement un des meilleurs gardiens du championnat depuis quelques années. Il va en falloir un petit peu plus pour le tromper, mais au moins Genève Servette essaye de tirer. C'est souvent ce qui a manqué ces derniers matchs, on a l'impression des fois de dire mais tire au lieu de chercher le beau jeu ou la passe parfaite. Tim Beson qui s'y est essayé, mais Sateri a dit non.
Ouais, c'est bien Talorbeck hein, qui est au centre de la deuxième ligne genevoise, malgré ce qu'annonce le site de la Ligue. Sateri qui n'est que à 90,3% d'arrêt sur début de saison, des chiffres qui ne sont pas à la hauteur de son talent. L'engagement qui a été remporté par les Biennois avec Grossman qui peut décaler sur son partenaire de défense et le puck qui est dégagé par Genevois avec Tchaïka pour son top scorer. Anderson s'est récupéré en zone neutre et c'est Schneller qui est sur la glace. Le puck qui est directement mis en zone offensive, on va pouvoir décaler sur Beck qui rentre en zone offensive par la droite, qui va perdre ce puck. Mais bon travail de Schneller. Les Genevois qui peuvent récupérer avec Vizi qui peut décaler un homme, qui s'avance, le tir peut-être. L'arrêt de Sateri sur cette percée de Tim Berni, c'était bien tenté de la part des Genevois qui retrouvent des couleurs après un début de match un peu timide.
Ouais, mais là ça fait effectivement quelques minutes que ça va mieux et Berni qui a tenté de dribbler Sateri, justement il est, j'aurais dit plutôt tenter le tir à sa place, mais de nouveau vu que je suis pas à sa place, il sait certainement mieux que moi ce qu'il fait. Mais on revoit, il a le ralenti, il a vraiment beaucoup de place, il a voulu aller du côté fermé de Sateri, c'est bien tenté. Encore une fois, s'il marque il a raison, s'il rate on a envie de dire qu'il aurait dû faire autre chose. Il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Je vois toujours en possession du puck avec Marc-Antoine Poulet qui connaît bien cet arrondi là-bas, quelques souvenirs de la finale de 2023 notamment, et Josh Joris qui peut récupérer ce puck. Joris pour Rod qui tente de le conserver en zone offensive. Rod et Poulet qui associent leurs efforts. Poulet qui peut jouer à la ligne bleue pour Chanton. Chanton un tir, une déviation peut-être de Joris, ça passe à côté. Pouliot qui parvient pas à maintenir le puck, mais Dave Souter va pouvoir le récupérer. Et je le vois qui conserve ce puck depuis, enfin dans la zone défensive avec Dave Souter qui peut éliminer Iris Salinen et partir à l'offensive. Souter il a un petit peu de place, il aurait pu prendre sa chance, va finalement aller s'installer tranquillement. C'est bien joué de la part de Dave Souter. Souter, Pouliot un tir de Sarri-Hervi qui passe largement à côté, et Bien qui va tenter de repartir en compte. Peut-être, attention, il y avait de la place là pour Johnny Knobuller, le Genevois, mais dégagement interdit. C'est pas très bien joué là, cette petite contre pour les Biennois. On a joué 5 minutes 10 dans ce début de match, toujours 0-0.
Ouais, l'occasion de vous dire également qu'il y a d'autres matchs sur les patinoires de Suisse aujourd'hui. Lugano reçoit Kloten, le match a commencé également à 14h et à 15h45, Ambry Piotta recevra le HC Davos. Alors que Sébastien Tellen nous communique que Kimmo Rintanen avait joué 536 matchs du côté de Kloten, avec l'étranger avec le plus de matchs dans le même club, c'est Joseph Mara qui nous rappellera des bons ou des mauvais souvenirs selon si on l'a eu en face ou sous nos couleurs, lui qui a joué 635 matchs à Davos en 2001 à 2013. Ça, ouais. C'est l'histoire ancienne.
Ça me rassure parce que quand j'ai commencé à parler des étrangers, je me suis dit, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Rintanen. Donc j'avais pas pensé à Mara, effectivement. Mais Rintanen, je l'avais, j'aurais pas évidemment pas son nombre de matchs, mais ça me surprend pas. Mais comme quoi, ça reste une catégorie où il n'y a pas grand monde qui peut se targuer d'appartenir.
Ouais, le jeu qui a repris du côté de la Tissot Arena avec les Biennois qui ont remporté l'engagement dans leur zone de défense et qui tentent de remettre le jeu de l'autre côté avec Dionisio qui va balancer le puck en fond de glace, bien récupéré par les Genevois avec Ranoun, Puljuharvi qui a Maninen, mais c'est un peu compliqué. Ouais, Puljuharvi qui va réussir à garder le puck, à trouver Schneller. Schneller qui se fait contrer, attention aux Biennois qui vont tenter de repartir, mais c'est un peu brouillon. Bon travail de la part des fans des Genève Servette avec un puck pour Saarijärvi dans sa zone de défense. Saarijärvi qui peut trouver Maninen, Maninen qui fait tout seul et qui se manque malheureusement les Genevois avec Le Coutre. Il fait un excellent début de saison, Simon Le Coutre, avec notamment 4 points sur ses 3 derniers matchs et qui parvient à relancer les actions de Genève, même si là ce sera un enjeu. On s'est mal compris avec Maninen qui a temporisé à hauteur de la ligne bleue. On en reste à 0-0. Avec 5 minutes 57 de jouer.
Ouais, Maninen que je trouve un petit peu en dessous depuis 2-3 matchs. Il est top scorer, il est pas mauvais, ça reste Maninen quand même. Mais par rapport, justement, il a mis les standards tellement haut que quand il est un petit peu en dessous, il manque un petit truc. Par contre, Puljuharvi, il a de nouveau au milieu de patinoire, il fait un petit geste pour éliminer un défenseur. Enfin, c'est vraiment la classe absolue. Hein.
Il est incroyable.
Ouais, c'est vraiment, s'il continue comme ça, il va vite être très apprécié de ceux qui sont pas encore complètement convaincus. Natavicius, pendant ce temps-là, fait le forecheck en zone offensive, mais Bienne va pouvoir récupérer. Bon travail de Nonhomme qui allait mettre une grosse charge là-bas. C'était Miranda. Miranda aussi qui, pour moi, fait plutôt un bon début de saison. Miranda avec Ignatavicius derrière le but. Les jeunes voient qui insistent avec Marco Miranda dans l'arrondi sur la gauche face à Gaëtan Haas. Miranda qui parvient à sortir le puck. Mais attention à ce contre. Il y a un 2 contre 1 qui se profile pour les Bénois avec deux hommes qui arrivent. Et Carrère qui est le dernier défenseur. Le tir. Oh, magnifique.
Oh là là.
Magnifique
but, le but de Rayala.
Ben voilà, il suffisait qu'on dise qu'il était un peu vieillissant, mais qu'il était toujours capable de tout. On le connaît avec un gros slap, mais on le connaît moins avec un petit back-end dans la lue. Ben, c'est pour toi exactement ce qu'il vient de faire. Tony Rayala qui s'est pas fait prier là pour mettre le puck au-dessus de l'épaule de Robert Mayer. Voilà, une petite erreur en zone offensive et conséquence immédiate.
Ouais, là, c'est Tony Rayala qui fabrique ce goal parce qu'il y avait un contre en hein, 2 contre 1. Mais le défenseur genevois, c'est Carrère qui avait bien joué le coup, qui a réussi à bien bloquer leur longue de passe, la passe du coup d'Offer qui est assez mauvaise. Mais Rayala qui parvient à contrôler ce puck.
Alors qu'il rate son contrôle là-bas.
Ouais, complètement le contrôle du patin. Et est-ce que Robert Mayer est tout blanc sur ce but?
Ouais, il
difficile à dire sous cet angle.
Il se met à genoux peut-être un tout petit peu vite, mais, alors, mais le soulevé de puck de Rayala, elle est quand même absolument magnifique. Et c'est dommage parce que je savais que je faisais plutôt un bon début de match, en tout cas depuis quelques minutes, mais je savais qu'il est puni sur la première petite erreur en zone offensive là, un peu qu'on a voulu maintenir en zone et du coup on a ouvert le compte. Pendant ce temps-là, ça repart pour Genève Servette avec Saarijärvi. Saarijärvi sur le centre là devant Harry Sateri, Taylor Beck qui peut récupérer. Beck, ouais, on s'est mal compris là avec Jimmy Vizi, on va devoir repartir. Robert Mayer qui sort de ses buts. Robert Mayer qui va jouer derrière avec Tim Bernier et Vili Saarijärvi. Les Genevois qui vont tenter de repartir, remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'on l'a dit, hein, il y avait plutôt une bonne séquence là pour les Genevois. Il n'a fallu qu'une petite erreur. Jimmy Vizi sur la droite qui peut contrôler. Vizi qui attend du soutien, il va envoyer le puck à destination de Beck derrière, dans l'arrondi juste devant le parquage. Dave Souter qui peut jouer à la bleue pour Chanton. Un tir de Chanton, Sateri qui se rate, le puck qui passe quand même à côté, mais Sateri qui a cherché à intercepter le puck de la mitaine qui n'est pas parvenu. Et attention à ce nouveau compte proposé par les Biennois avec Knobuler qui tente de déborder Dave Souter sur la gauche. Bon travail de Dave Souter là pour bloquer les velléités offensives du numéro 22 biennois. Bien qui parvient toutefois à conserver le puck en zone offensive sur la gauche dans l'arrondi des buts de Robert Mayer. Il y a un Genevois qui a perdu sa canne, en l'occurrence Kim Beson. Attention parce que maintenant un petit changement de ligne hasardeux des Genevois, ça permet aux Biennois de rester en zone avec un puck monté sur la droite des buts de Robert Mayer. Attention à Salinen notamment qui est sur la glace avec Fabio Hoffer. Et non, c'était Jeremy Berchi, pardon, et pas Fabio Offert, le puck qui finalement finit par sortir à 11 minutes 50 de la fin de ce premier tiers.
Ouais, avec les Biennois en position de la rondelle dans leur zone défensive avec Grossman sur la gauche des buts de Sateri. Grossman qui va laisser le puck à son partenaire de défense, une longue relance. Les Biennois qui sont arrivés en zone offensive avec un tir qui est dévié assez facilement par Robert Mayer. Les Genevois peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose et on sera un petit peu court du côté de Noah Rod et ça permettra à Dionisio de concéder un dégagement interdit. C'est pas pour une question, il s'est retourné, il a mis un snapshot depuis sa zone de défense. Pas le meilleur jeu de la part de Nicio, mais ça nous donne un engagement en zone offensive qui sera joué par la première ligne genevoise. Il faut profiter de cette occasion avec du côté viennois, notamment la ligne, la quatrième ligne de. Je vais arriver, c'est l'anglaise. Avec Jérémy Berti, Yannick Tabatnik et Catin face à la première genevoise engagement qui est remportée par Maninon. Le puck qui est mis à la bleue avec un défenseur qui s'avance. Un tir dans un angle très fermé. C'était bien tenté, mais ça ne passe pas. On attendait de retrouver Granlund avec Carrière qui peut décaler pour Yuarvi. Le puck qui va aller mourir devant la cage de Sateri. Granlund et Maninon qui s'associent. Le puck qui est toujours jouable, mais il est sur la palette. Dionisio qui va pouvoir dégager les siens à Blatnik, qui va mettre un petit puck en cloche. Ça va permettre aux Biennois de se dégager et aux Genevois de repartir depuis leur base arrière avec Simon Lecoultre qui s'empare de la rondelle. Lecoultre qui va porter ce puck, qui finalement on peut trouver Maninon. Une belle relance pour Maninon qui est en zone offensive. Maninon qui va chuter, qui parvient pour le moment à conserver ce puck. Ça va arriver derrière la cage, défendu par Harry Sateri avec Pouliarvi qui peut trouver Souter qui va faire le tour de la cage de Sateri. Souter toujours qui revient à hauteur de la bleue avec un tir dans la mêlée. L'arrêt de Sateri, le rebond Granlund qui n'a rien pu en faire. Le puck qui est sur Rayala a bien pris par Maninon, mais on va se sortir avec Gaëtan Haas qui ne parviendra pas à dégager ce puck, mais les Viennois qui finalement vont se sortir et vont pouvoir repartir tranquillement à l'offensive à 10 minutes 25 de la fin du premier tiers-temps.
Ouais, et où est le puck là? Il est sur la palette biennoise et ça va revenir sur Yannick Bourren, l'ancien défenseur du CP Berne qui lui aussi a fait le trajet. Il y a pas mal de joueurs qui font le trajet en Berne.
Lui il est passé par Ambry,
il est passé par Ambry. Il a un petit léger. Allez, les Bienne qui va repartir avec Anderson là au centre, sur la gauche, qui prend un petit peu de vitesse, mais c'est récupéré par Tim Berny qui tente de jouer avec Jimmy Vizi. C'était bien joué, mais le puck il va filer. Non, il n'y aura juste pas de dégagement interdit. Le puck il s'arrête avant la ligne. Ça permet aux jeunes d'aller faire le forecheck là sur la défense biennoise, Tim Beson notamment et Jimmy Vizi, mais qui s'attaque au même homme. Ce qui fait que pendant ce temps là, un autre homme va pouvoir assurer une longue relance qui finalement finira dans les filets de protection derrière les buts de Robert Maillère après 10 minutes et 18 secondes de jeu. 1-0 pour Bienne dans un match à plusieurs vitesses là. Je vais savoir qu'il y a eu du mal à se mettre dedans, qui a dominé les quelques minutes suivantes et qui n'a rien trouvé de mieux que de concéder l'ouverture du score alors que c'était plutôt une période où je vais savoir dominer.
Est-ce que c'est étonnant?
Pas du tout. C'est plutôt une mauvaise habitude qui sont en train de développer les jeunes voix. C'est, on prend des buts, sont dans le moment fort durant lesquels on est évidemment incapable de marquer.
Ah, exactement. 7 tirs cadrés à 4 hein, pour le moment pour Genève Servette. Du côté des buts escomptés, on est à 0,25 face à 0,15 à peu près pour Bienne. Et 1-0 pour Bienne sur ce but, ce magnifique de Rayala sur assist de Fabio Offer. Le jeu qui a repris, on est devant le banc du HC Bienne avec Pouliot qui va balancer mais directement sur un défenseur biennois. Les Zélandais qui vont partir à l'offensive avec leur troisième ligne et Jere Sainen qui se fait prendre le puck avec Pouliot qui va peut-être pouvoir créer quelque chose. Pouliot il est un peu seul mais parvient à conserver ce puck. Il a tout de même devant la cage mais il n'y avait absolument personne si ce n'est Robin Grossman à la relance avec Nebuller qui entre en offensive par la droite. Yannick Nebuller toujours, il a Sainen et Müller avec lui. Müller qui préfère faire tout seul. Müller qui fait le tour. Müller, le petit solo. Müller du back-end. Ça passe à côté de la cage de Robert Maillère. C'est un peu gourmand du côté de Johnny Müller. Et Genevois qui vont tenter de récupérer ce puck contre la bande sur la gauche des buts de Robert Maillère. On est en train de piocher. Ça va revenir à la bleue et ça va sortir. Ouais, on ne parviendra pas à partir en compte. Dionisio en possession de la rondelle en zone neutre. Dionisio qui va jouer sur Zrid. Zrid pour la relance avec Dionisio qui prend la vitesse, qui passe la mi-glace. Dionisio toujours. Dionisio, le petit solo de Dionisio qui fait tout seul et qui ne parviendra pas à adresser un tir pour retour défensif de la part des Genevois. Mais attention à ces Biennois qui se sentent pousser les ailes des Souter qui finalement vont pouvoir récupérer ce puck. Attention à ne pas commettre de bévue face à la pression des Zélandais, des Souter qui va porter ce puck, qui va passer la mi-glace balancée en fond de zone. Et Oostrum qui va pouvoir récupérer ce puck. Mais bon travail de la part de Mathieu Verboon pour gêner la relance biennoise. Il est accompagné par Marco Miranda et finalement Dionisio qui va pouvoir dégager les siens du back-end. Est-ce qu'il y aura un dégagement interdit? Oui, coup de sifflet des arbitres. L'instant, 8 minutes 8 encore à jouer, toujours 1-0 pour Bienne.
Ouais, et deuxième dégagement interdit de Dionisio en quelques instants. Ouais. Là. Alors là, celui-là était un peu plus légitime, on va dire, que le premier. Il y avait une certaine pression quand même mise sur la défense biennoise. Mais ça offre de nouveau une opportunité à Genève Servette d'aller engager en zone offensive avec une ligne en face qui n'a pas pu changer.
Ouais, c'est les mêmes que la dernière fois. Les Finlandais face à la quatrième ligne.
Exactement. Donc plutôt l'avantage normalement pour les Genevois, notamment avec ces Genevois qui remportent engagement. Et Pouliarvi qui va tenter Sarriarvi, pardon, le puck qui va revenir devant le but. Et Sup qui traîne, les Genevois qui tentent de le maintenir en zone offensive, avec Pouliarvi qui travaille bien une nouvelle fois. Pouliarvi, Sup qui traîne devant Sateri, et les Biennois qui vont finir par mettre les patins, la palette dessus, parce que les patins c'est quand même vachement plus compliqué avec cette rondelle récupérée par Granlund. Mais Granlund qui était seul face à deux défenseurs biennois, Granlund qui n'est pas parvenu à se frayer un chemin. Et attention à ce point quand même récupéré par les Genevois, quelques erreurs biennoises aussi, donc les Genevois seraient bien inspirés de profiter. Pour l'instant c'est pas le cas, et c'est Tim Berni qui va repartir depuis devant ses buts avec Viri Sarriarvi. Sarriarvi pour Maninen qui est obligé de revenir un petit peu en arrière. Maninen qui rend à Tim Berni. On va changer d'effectif là pour les Genevois, et on voyait sur la glace la ligne de Vizi, Beck et Tim Beson. On le rappelle ce soir aligné avec Vizi et Tyler Beck. Beck justement sur la droite, Beck qui peut jouer avec Vizi. Oh, le tir, est-ce que c'est la latte sur ce tir de Jimmy Vizi. C'était bien joué, bien combiné entre les deux hommes là. Le puck toujours en zone offensive, mais récupéré à l'instant par l'auteur de l'unique but de la rencontre pour l'instant, c'est Tony Raiala. Genève Servette qui tente quand même de rester en zone avec la première apparition, il me semble, d'Eric Schneider.
Non,
pas la première.
Il a déjà fait trois shifts.
Ah voilà, ouais, c'est la première fois que je le vois. Comme quoi, ça serait bien que je me concentre sur le jeu, et les Biennois qui vont repartir depuis l'arrière.
Ouais, Schneider qui a déjà fait quelques présences, contrairement à Vincent Prapon, il me semble. Et les Biennois en possession du puck en zone neutre qui vont jouer sur Bourron. La longue relance sur sa droite, mais la pression genevoise qui oblige les Biennois à partir depuis leur base arrière avec Blessing. Un puck qui sera touché par Tchaïka sur la gauche des buts de Maier, qui va faire un petit tour sur lui-même pour attendre du soutien. Il va trouver Anderson derrière la cage de Robert Maier. Anderson sous la pression de Chanton qui parvient à trouver Grossman, le tir écrasé de Romy Grossman. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire. Grossman qui n'a plus de canne, et on va se planter complètement du côté du HCBN. Ça va permettre Anderson de rentrer dans l'offensive. Du côté genevois, plutôt, il y a une crosse qui traînait par terre. Et première pénalité de la soirée, elle sera sifflée contre le Genève Servette. Ouais, c'est dommage. Genève Servette qui était bien revenu dans le match et qui concède une pénalité peut-être au moins bon des moments. Je dirais, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour prendre une pénalité.
Non, effectivement. Alors, pour rappel quand même, vu qu'on en a parlé de Petr Tchaïka, qui était junior genevois et qui avait été échangé contre Vermine à l'époque où on échangeait tout ce qui pouvait s'échanger entre Genève et Lausanne. Vermine qui était venu ou Vermet, c'est Petr Tchaïka qui était accompagné de Tim Beson dans le taxi qui avait mené les deux joueurs à Lausanne. Et finalement, les deux joueurs qui se retrouvent ce soir face à face, un avec le maillot genevois et un avec le maillot biennois, alors qu'on a vu que sur l'autre patinoire dans laquelle il se déroule un match à 14h, Cloton a ouvert la marque à Lugano, ce qui fait que finalement les deux wagons sont bien en train de se rapprocher au milieu de classement. Là, on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps 8 points d'avance sur Cloton, avec cette victoire provisoire de Cloton et pour l'instant la défaite genevoise à Vienne. L'écart est en train de se resserrer, mais le match est encore long et Genève Servette va pouvoir une première fois se dégager dans cette période d'infériorité. C'est Josh Joris qui allait s'asseoir pour 2-2. Hein. Josh Joris et les Biennois qui vont donc avoir une longue séquence de powerplay dont ils vont tenter de profiter. Ouais, on espère, effectivement. Plus longue elle sera, mieux ce sera pour les Genevois, avec Ulström à la bleue. Ulström qui installe le powerplay, mais un peu craté, et un dégagement facile là pour Mathieu Verboon qui était aligné avec Noah Rod sur cette première séquence de boxplay. Les Genevois qui ont déjà gagné 30 secondes et bien qui va repartir en offensive.
Bah, les Biennois qui ont un powerplay à 21,43%, 8e de la ligue, et qui vont aller s'installer avec Salinen qui a tenté de décaler un homme, mais le puck qui va ressortir en zone neutre, c'est Ulström qui va se saisir du puck. On a Maninen et Pouliarvi sur la glace, hein, pour les attaquants genevois. Salinen qui va l'installer, le powerplay par la gauche, qui va jouer le long de la bande sur son top scorer Anderson. Bonne pression de la part de Pouliarvi et genevois qui vont peut-être pouvoir se dégager avec Roger Caird à la cage de Maier. C'est chose faite, c'est le puck qui va parvenir jusqu'à Harry Sateri. 3 minutes encore à tenir pour les genevois, 4-5, et c'est Vizi et Verboon qui sont sur la glace. Normalement c'est Josh Joris, hein, qui est aligné avec Vizi, mais Joris qui est sur le banc, qui a pris 2-2. Knobuler qui va tenter de pousser ce puck en fond de zone, il va y parvenir, mais bon travail des shooters qui fait parler son gabarit. Le puck qui est bloqué contre la bande, on est dans l'arrondi sur la droite des buts de Robert Maier. Le puck qui va sortir de l'autre côté pour Gaëtan Haas avec Raiala. Haas qui va faire le tour de la cage de Robert Maier, jouer sur un de ses coéquipiers, ça va revenir sur Raiala avec Dionisio. Le puck sur Knobuler désormais, Knobuler vers la cage pour Gaëtan Haas, et encore Tchaïka qui est devant la cage avec un tir. On cherchait peut-être le rebond pour Gaëtan Haas, c'est manqué. Le puck qui ne va pas sortir de la zone offensive genevoise, c'est peut-être à l'instant, non, toujours pas. Bon travail de la part du power play viennois. même si là le puck qui a encore été arrêté sur la ligne par Dionisio avec un tir, l'arrêt de Robert Maillard, le puck est toujours jouable, on va pouvoir éloigner la rondelle des buts de Robert Maillard, mais le puck est toujours jouable avec Dionisio qui va jouer devant lui le power play biennois avec Rayala sur la gauche des buts. Rayala qui cherche une solution, qui temporise. Rayala toujours qui est vers la bleue sur Dionisio et qui s'avance sur Dionisio, l'arrêt de Robert Maillard qui va pouvoir jouer cette rondelle. Mine de rien, on a déjà tenu 2 minutes et 15 secondes à 4.5 et le boxplay je le vois qui fait du bon boulot.
Ouais, qui fait du bon boulot, alors que pourtant depuis le début de la saison il n'était pas encore aussi performant que ce qu'on a eu l'habitude de le voir les saisons passées. Mais pour l'instant ça tient là, on fait pas face au meilleur power play biennois de l'histoire là, sur cette séquence, mais quand même voilà, il faut tenir et pour l'instant les Genevois le font plutôt bien.
Cinquième boxplay de la Ligue, hein, Genève actuellement.
Ouais, on avait l'habitude d'être plutôt 1-2 ces dernières saisons quand même. Même depuis historiquement. Historiquement, le boxplay genevois a toujours été une de ses forces, alors que là, un nouveau dégagement de la part de Tim Berni, ça vient directement sur Harry Sateri. Les Biennois vont devoir repartir depuis l'arrière avec Ullström qui peut jouer sur la gauche pour un homme qui prend la vitesse, c'est le top scorer Anderson qu'on voit un peu casse-lui derrière le but. Maillard qui le touche, Berni qui peut le récupérer, mais un homme qui n'a pas compris la passe de Berni et les Biennois qui vont pouvoir s'installer. C'était Pouluyarvi qui a aligné là à 4 contre 5 avec Sakari Maninen. Anderson sur la gauche, Anderson qui va jouer derrière lui pour Ullström qui a un but de notre place, un tir, il a cherché la lucarne au premier poteau, la même que celle qu'a trouvé Rayala tout à l'heure, c'est passé au-dessus et Bien continue à avoir la possession du puck. Attention avec un homme qui se décale sur la gauche là et une rondelle qui va revenir à la bleue pour Ullström, il a une possibilité avec Anderson qui cherche une solution, Maninen qui va mettre la pression, Maninen qui prend un coup au visage, il y aura 2 minutes.
Ouais, super travail de Maninen.
Ouais, Maninen qui a vraiment été chercher la faute. Alors il y a faute, j'ai l'impression que Maninen a juste fait ce qu'il fallait au niveau gestuel pour que les arbitres le sifflent. Anderson est d'ailleurs pas spécialement d'accord avec la décision. Je pense qu'il y a un petit quelque chose et que Maninen a juste l'expérience qu'il faut pour faire le geste, genre il m'a touché au visage, pour que les arbitres lèvent la main. On va pas s'en plaindre parce que ça va permettre à José Servette de jouer à 4 contre 4 pendant 51 secondes et ensuite d'avoir 1 minute 9 de power play. Alors maintenant il reste plus qu'à savoir si on va écrire play avec un Y ou avec un IE à la fin.
Ouais, effectivement, mais dans tous les cas c'est du temps qui n'est pas joué à 4 contre 5 pour les Genevois. C'est toujours bon à prendre avec un engagement qui sera en plus disputé sur la gauche des buts d'Harry Sateri. Et on a mis sur la glace Carrère avec le coutre Beck et un homme qui vient changer de canne. C'est Jimmy Vizy qui a fait. C'est Tom Beup, pardon. C'est Tom Boson. Oui, c'est ça.
Tom Boson. Ouais. C'est Tom Sawyer.
Exactement. Qui était chercher une nouvelle crosse. Beck, Boson, Carrère et le coutre pour jouer ses 51 secondes à 4 contre 4. Avec un engagement en zone offensive genevoise face à Gaëtan Haas, l'engagement qui est remporté par les Biennois mais récupéré par Tyler Beck. C'est bien joué, les Genevois qui vont pouvoir s'installer avec Tyler Beck toujours qui peut laisser le puck à Tim Boson. Boson qui va chercher une solution, Boson qui est bien pris par un joueur biennois. Ça va ressortir sur Roger Carrère qui s'est porté à l'attaque. On est sur la gauche des buts dans l'arrondi de Sateri et on pioche toujours avec notamment Rayala et Carrère, duel de 25. Le puck qui va sortir sur Tyler Beck qui cherche, qui veut parler son physique face à Yannick Bourron. Tyler Beck qui va peut-être s'offrir un chemin vers la cage. Ouais, bon travail de la part d'Yannick Bourron, mais Tyler Beck qui parle un conseil à cette rondelle et qui finalement va devoir la perdre. Il reste encore 10 secondes sur le banc des pénalités pour Josh Harris et les Biennois en position du puck avec Gaëtan Haas qui sait ce puck qui va passer en zone neutre à l'instant. Gaëtan Haas qui fait parler sa vitesse. Gaëtan Haas, toujours Gaëtan Haas qui s'excentre un peu, qui va peut-être pouvoir trouver Grossman. Ouais, c'était bien tenté. Et les Genevois qui sont au complet, qui ont désormais 1 minute 8 en power play pour tenter d'aller alerter Harry Sateri. On va partir depuis les bases arrière avec Sakari Maninen.
Ouais, Maninen qui va tenter de relancer l'offensive pour les Genevois, mais il est bien mis sous pression là par un Biennois qui est resté au forecheck. Qui s'est plutôt bien joué parce qu'il a empêché Maninen d'installer de préparer le jeu depuis son Genevois avec une grosse charge là au milieu de patinoire sur Marcus Granlund. Pas de faute, mais charge spectaculaire. Et c'est d'ailleurs le Biennois qui semble s'être fait mal. Exactement, Sablatnik
qui ne marquera pas son but obligatoire contre nous. C'est une bonne nouvelle.
C'est déjà pas mal. Jolet Servette qui va repartir avec Sarri-Hervi qui prend de la vitesse au milieu de patinoire. Sarri-Hervi avec Maninen. Maninen qui joue sur sa gauche pour un homme que j'ai pas réussi à identifier, mais ça va pas servir à grand chose parce que les Genevois ont déjà perdu le puck. Ce puck qui va revenir sur la palette de Maillard. Maillard, une longue relance de Robert Maillard pour Marc-Antoine Pouliot. Pouliot qui a voulu jouer avec Maninen. Ça sera contrôlé en deux temps par Maninen, mais tout semble une nouvelle fois compliqué en powerplay pour les Genevois. Même si là, les Biennois facilitent le boulot Genevois en rendant le puck à ces derniers. Et Maninen qui peut peut s'installer sur la gauche. Il reste 4 secondes. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir prendre un shoot très vite avec Sarriavi. Le tir de Sarriavi, ça passe à côté. Le pas qui revient. Maniden. Ah, dommage. La cage était presque vide, mais il y avait un joueur quand même sur la trajectoire du tir de Sakari Maniden. Je ne savais qu'il n'en a pas profité. Et les Genevois qui vont devoir repartir avec Sarriavi à 43 secondes de la fin du premier tiers.
Ouais, Sarriavi qui va laisser le puck à un de ses coéquipiers. C'est Giancarlo Chanton qui va transmettre le puck à Sarriavi. Devant lui, c'était touché par Jimmy Vizi. Le puck qui est vers la cage de Sattery en train de disputer cette rondelle avec notamment Marco Miranda. Il reste 25 secondes à l'instant dans ce premier tiers-temps. Le puck qui va échapper à des shooters, ça va revenir jusqu'à Robert Mayer. Mayer qui va tenter une longue relance qui sera touchée par Jojori, Salamiglas, Ullström qui parvient à sortir ce puck en zone neutre. Je ne vois qu'ils ne parviennent pas à rentrer en offensive puisqu'il y avait un enjeu. Tipperé reste 10 secondes à jouer. Jimmy Vizi en position du puck dans sa zone de défense avec Dave Souter. Souter qui va gentiment transmettre le puck à Giancarlo Chanton. C'est fini à l'instant sur ce premier tiers-temps. 1-0 pour Bienne. C'est pas immérité, c'est pas non plus franchement mérité.
Non, je dirais qu'un score nul, de parité aurait été plus logique à la vue de ce premier tiers. Maintenant, bah voilà, Bienne a su profiter d'une petite largesse défensive genevoise pour ouvrir le score. Tu l'as dit, c'est pas scandaleux. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a la place pour Genève Servette d'aller chercher quelque chose cet après-midi. Il va falloir quand même en faire un petit peu plus pour trouver notamment Harry Sattery.
Ouais, et ça, ce sera après une pause d'à peu près un quart d'heure. Avec le meilleur de la musique sur Radio Lac. On se retrouve tout à l'heure.
Radio Lac. Partenaire officiel du Genève Servette Hockey Club.